Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une info qui a pas mal circulé, via François notamment. La publication d'une compilation assez impressionnante. Plus de 700 études scientifiques.
Oui, bonjour. C'est ça, plus de 700 études revues par les pairs, toutes disponibles sur la plateforme Zenodo depuis le 1er juillet 2025.
Et cette compilation a été montée par une équipe internationale, avec des noms comme les docteurs Wutscher, Bridol.
Exactement. Et l'ensemble de ces travaux, eh bien, ils soulèvent des questions assez précises sur la sécurité des vaccins ARNm contre la Covid-19. C'est à ce jour la plus grosse base de données critiques publiée sur ce sujet.
D'accord. Donc notre but ici, c'est vraiment d'explorer les points clés qui émergent de cette masse de recherche, sans prendre parti, juste pour comprendre les préoccupations soulevées.
C'est l'idée. Essayez de voir clair dans ce qui est présenté.
Alors, quels sont ces grands domaines d'inquiétude identifiés dans la synthèse ?
Bon, la compilation les regroupe en 6 thèmes principaux. Le premier, c'est la pathogénicité potentielle de la protéine Spike elle-même.
Ah oui, la protéine Spike.
C'est ça, sa capacité supposée à provoquer des dommages directs. Près de 375 études dans l'eau explorent ses liens possibles avec des effets cardiovasculaires ou neurologiques.
D'accord, presque la moitié des études quand même. Et ensuite ?
Il y avait cette question de la biodistribution, c'est bien ça ? Où vont les composants du vaccin dans le corps ?
Tout à fait. Au début, on pensait que ça restait très localisé, au site d'injection. Mais voilà, 61 études de cette compilation suggèrent une diffusion plus large dans l'organisme, vers différents organes.
Et puis, il y a la persistance. Ça, c'est un autre point. 41 études indiquent que des éléments du vaccin, l'ARM ou la protéine Spike, pourraient être détectés bien plus longtemps que prévu. Parfois plus d'un an.
Plus d'un an. Ah oui, c'est long.
Effectivement.
Et concernant les nanoparticules lipidiques, les LNP qui transportent l'ARM ?
Elles sont aussi sous les projecteurs, si on peut dire. Environ 80 études dans cette collection pointent du doigt un lien possible avec des réactions inflammatoires.
D'accord, inflammation. Et puis, il y a ce concept un peu plus technique, l'empreinte immunitaire, le péché antigénique originel.
Oui, c'est ça. C'est l'idée, explorée dans 140 de ces publications, que la première rencontre avec l'antigène, via le vaccin, donc pourrait en quelque sorte programmer la réponse immunitaire future.
C'est qui pourrait la rendre moins efficace contre les variants ?
C'est la crainte exprimée, oui. Que le système immunitaire soit moins apte à reconnaître et combattre efficacement des variants du virus différents de la souche initiale ciblée par le vaccin.
Je vois. Et le dernier point, ça concerne l'évolution même du virus.
Oui, 70 études se penchent sur l'hypothèse qu'une vaccination à très très grande échelle ait pu exercer une pression sélective et que cette pression ait pu, involontairement bien sûr, favoriser ou accélérer l'émergence de variants résistants.
Bon, tous ces points scientifiques, forcément, ça soulève des questions qui vont au-delà du labo. L'article de François mentionne aussi l'aspect institutionnel, c'est ça, non ?
Tout à fait. La source François met le doigt sur une difficulté potentielle. Est-ce que les organismes de régulation, ceux qui ont autorisé ces vaccins en urgence, peuvent aujourd'hui réévaluer ces nouvelles données critiques de manière totalement objective ?
Il y aurait une sorte de conflit d'intérêts institutionnel.
C'est la question soulevée par l'article, oui. Une position potentiellement délicate pour ces agences.
Et ce contexte, ça nous ramène aussi à un autre débat, plus ancien, que l'article rappelle, celui des traitements précoces.
Exactement. François rappelle sa position éditoriale, qui date même d'août 2020. L'idée que des options comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine auraient été écartées peut-être un peu vite, au profit de la stratégie vaccinale.
Avec cette citation du professeur Perron sur la perte de chance.
C'est ça. Une perte de chance significative. C'est ce qui est repris pour illustrer ce point de vue dans l'article.
Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, comment cette compilation de 700 études est-elle présentée ? Quelle est sa portée d'après la source ?
Eh bien, elle est présentée comme une contre-expertise scientifique majeure. Un corpus de données critiques qui pourrait, disons, rééquilibrer un peu la balance dans l'évaluation des risques des vaccins ARNm.
Un tournant scientifique même.
Certains observateurs cités dans l'article utilisent ce terme, oui. Parce qu'elle fournit une base de données centralisée, accessible, pour une réévaluation peut-être plus indépendante du rapport bénéfice-risque.
Il y aurait des appels pour que des organismes comme l'OMS, la FDA, se penchent sérieusement sur ces données.
Oui, ces appels sont mentionnés. Mais, et c'est là le paradoxe souligné par François, on demande à ces mêmes institutions qui ont autorisé les produits de les réévaluer à la lumière de données critiques.
Ce qui nous ramène à la question du potentiel conflit d'intérêts.
Voilà. Du coup, la collection est surtout présentée comme une ressource. Une ressource pour les chercheurs, les décideurs et même le public, pour essayer de nourrir un dialogue scientifique plus transparent.
Hmm. Et pour finir, peut-être une réflexion un peu plus large qui émerge de tout ça. Quand on a des données scientifiques nouvelles, parfois contradictoires, qui sortent après des décisions prises dans l'urgence d'une crise, comment une société fait-elle pour gérer ça ? Comment on articule ce besoin de suivre la science qui évolue tout en maintenant la confiance dans nos institutions de santé publique ?
C'est toute la question, et elle est complexe. Il n'y a pas de réponse simple, malheureusement.
C'est une question qui reste ouverte, en effet. Merci pour cet éclairage.
Merci à vous.